Vous écoutez, on lit pour vous.
La vie de bureau, vue par des immigrants, un texte d'Isabelle Dubé, paru le 2 juillet 2025 dans la presse. Les patrons québécois sont-ils plus proches de leurs employés qu'ailleurs dans le monde? Est-ce que les travailleurs apportent leur lunch en Europe et en Afrique du Nord? La presse a discuté des différences entre les cultures de bureau d'ici et d'ailleurs, avec des professionnels qui ont immigré au Québec. Mathieu Nicolet, originaire de Lausanne en Suisse, il est statisticien chez Corem à Québec. Les heures de travail. Suisse, 43 heures avec un horaire de 7h30-18h ou de 7h-17h30. Les journées sont vraiment longues en Suisse. Tu rentres à la maison avec les enfants à 18h30 et tu dois encore faire la routine, raconte Mathieu Nicolet, qui a quitté les montagnes et le chocolat pour de plus grandes possibilités de carrière, la conciliation travail-famille et une meilleure qualité de vie. Résident de Québec depuis 13 ans, avec sa conjointe québécoise et leurs enfants, il travaille dans une PME spécialisée dans les applications géospatiales des entreprises, qui a adopté la semaine de 4 jours à 34 heures. L'heure du lunch. J'ai travaillé à Zurich, en Suisse alémanique. À 12 heures, tout le monde se levait et allait manger en même temps. À 12h44, il y avait encore plein de monde dans la cafétéria. Et à 12h45, tout le monde se levait en même temps et repartait travailler. Et après, à 12h46, il n'y avait plus personne. C'était saisissant. Mais en général, il n'y a pas trop de différence entre la Suisse et le Québec. Les gens vont luncher entre 12h et 13h. Ils apportent leur lunch. Il y a des frigos. Parfois, ils mangent à la cafétéria sur le lieu de travail. Les relations entre collègues. Le contact avec les gens est plus facile au Québec. On discute volontiers avec tout le monde, de n'importe quoi. Mais on a moins tendance à se voir en dehors des heures du travail. En Suisse, c'est plus difficile d'aller vers les autres. Le contact est beaucoup plus difficile. Mais quand il y a quelque chose qui se développe, on se voit en dehors des heures du travail. La hiérarchie. En Suisse, la hiérarchie est beaucoup plus marquée. On ne va pas luncher avec son supérieur ou avec un chef d'équipe. On ne va pas aller discuter directement avec eux. C'est moins naturel et il y a le vouvoiement. Quand je suis arrivée chez Corem, le deuxième jour, je rencontrais le président et c'était directement le tutoiement. Ça aide à ce que les relations de travail se fassent de manière plus naturelle. L'atmosphère de travail est généralement plus saine et plus détendue. L'organisation du travail. La flexibilité est plus grande au Québec pour le télétravail, observe-t-il. En Suisse, les gens sont plus réticents. Mathieu Nicolet constate aussi que son pays d'origine est conservateur et réfractaire au changement, notamment pour la conciliation travail-famille. Je ne veux pas être méchant, mais la Suisse a un modèle encore assez archaïque. C'est encore le mari qui travaille, qui rapporte l'argent. Dans certains cantons allemands, ils sont presque fiers de dire que la femme doit rester à la maison et que c'est une grande fierté pour elle de s'occuper des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Les cantons romans et italiens sont un peu plus progressistes. Oussem Trabelsi est originaire de Tunis, en Tunisie. Il est conseiller principal en sécurité chez Desjardins, à Lévis. Les heures de travail. Tunisie. De 40 heures à 48 heures. L'horaire est de 8 heures à 18 heures, avec 2 heures de lunch de 12 heures à 14 heures. Ça, c'est un inconvénient. Il faut vraiment se lever tôt le matin. À 18 heures, je me sens vraiment fatiguée. Je n'ai plus le temps d'aller pratiquer du sport, sauf le week-end, raconte Oussem Trabelsi, qui a quitté la Tunisie pour une meilleure évolution de sa carrière et qui avoue s'ennuyer de la plage, mais pas de la chaleur. Ce qui m'attirait ici, c'est la flexibilité du temps. On travaille 7 heures par jour, on a une planification à respecter, on a un engagement envers l'employeur, mais on peut commencer à 8 heures ou à 9 heures, terminer à 16 heures ou 17 heures. Cette flexibilité-là permet de gérer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. L'heure du lunch. En Tunisie, ces 2 heures de lunch ont été fixées de 12 heures à 14 heures et c'est à nous de les respecter, explique-t-il. Elles permettent d'aller au garage, de récupérer un document au gouvernement. L'heure supplémentaire permet de faire ce qu'on ne peut pas faire quand tout est fermé à 18 heures. Souvent, on sort manger avec les collègues. Parfois, on va dans un café et on parle jusqu'à ce que le temps arrive. Il y a aussi des espaces verts dans les entreprises et la 2e heure, on reste là pour partager nos expériences. La majorité des gens achètent leur repas. Quand on fait attention à ce qu'on mange, on l'apporte. Les relations entre collègues. Oussem Trabelsi ne voit pas de différence. En Tunisie comme au Québec, il y a de bonnes relations chaleureuses avec les collègues de travail. La hiérarchie. Généralement, en Tunisie, on jase avec notre supérieur hiérarchique, mais les lunchs, c'est entre collègues. Les directeurs partent ensemble. Dans la 2e heure de lunch, les directeurs principaux viennent nous rejoindre, parfois dans l'espace vert. Ce n'est pas la même culture qu'au Québec. Ici, avec mon directeur principal, on réserve du temps pour aller manger ensemble. Il n'y a pas de restrictions. À Lévis, dans l'espace de travail ouvert, où il n'y a pas d'espace réservé, un conseiller peut être assis à côté d'un directeur. En Tunisie, les directeurs sont dans leur bureau fermé. L'organisation du travail. Il y a plus de flexibilité au Québec. Je trouve le temps d'aller pratiquer un sport, je fais de la course et de la gym, relate-t-il. Je suis sur le point de faire des rénovations et je reçois des travailleurs à la maison. Quand j'en ai discuté avec mon chef d'équipe, il m'a dit « Reste à la maison pour travailler. » En Tunisie, il faut prendre un congé si on fait faire des travaux à la maison. Vous écoutez « La vie de bureau vue par des immigrants », un texte d'Isabelle Dubé, paru le 2 juillet 2025 dans la presse. Respectivement originaire d'Achersleben, en Allemagne, et de Lévis, Christophe Wefferling est consultant en communication et Alexandra Vaillancourt est productrice en effets visuels à Montréal. Les heures de travail. Allemagne, 40 heures. On commence à travailler entre 6 heures et 10 heures pour une journée de 8 heures. Au Québec, la semaine de travail est souvent de 35 heures, alors qu'en Allemagne, un 35 heures est généralement considéré comme du temps partiel, relate Christophe Wefferling, qui a travaillé au total 3 ans pour différents employeurs québécois avant de repartir en Allemagne et de revenir le printemps dernier avec sa conjointe québécoise et leur fillette. Si la CNESST a établi 2 semaines de vacances obligatoires payées par année, la loi allemande prévoit un minimum de 20 jours, 4 semaines, plus une douzaine de jours fériés. Je n'ai jamais rencontré un employeur allemand qui n'en donnait que 20. J'ai toujours eu au moins 25 jours de congé par année et j'en avais 30 chez mon dernier employeur. Ma mère, lorsqu'elle a pris sa retraite, était à 35 jours. On a aussi des congés de maladie illimités payés par l'employeur pendant 6 semaines et des congés supplémentaires quand les enfants sont malades. L'Allemagne, c'est vraiment bien pour avoir une famille, ajoute sa conjointe Alexandra Vaillancourt. C'est plus facile de trouver une garderie. L'heure du lunch. On n'a pas le choix de prendre 30 minutes de pause. C'est réglementé, explique Alexandra Vaillancourt, qui a télétravaillé pendant 4 ans en Allemagne. Les gens ont plus tendance à manger seuls, poursuit son conjoint. C'est plutôt rare de quitter le lieu de travail pour aller luncher quelque part en groupe. J'ai rarement vécu ça. Chacun prend ses pauses comme il le veut, du moins dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, et doit avoir terminé le travail à faire à la fin de la journée. Au Québec, je me souviens d'être sortie en groupe à l'extérieur du bureau pour aller luncher, et j'avais plus un sentiment d'appartenance. Les relations entre collègues. J'ai remarqué que les gens sont plus enclins à passer des 5 à 7 avec les collègues après le travail pour partager des moments de convivialité, tandis qu'en Allemagne, les gens ont plus tendance à rentrer à la maison tranquille après le boulot. La hiérarchie. Ça dépend des industries. J'ai travaillé dans des entreprises de technologie et tout le monde se tutoyait. J'ai travaillé aussi pour une firme de relations publiques. Et chez nos clients, dans le domaine de la finance, les gens se vouvoyaient, c'était très hiérarchisé. Dans beaucoup d'industries en Allemagne, les gens se vouvoient encore. L'organisation du travail. Depuis la pandémie, il y a une grande ouverture pour le travail à distance en Allemagne. Il est interdit de travailler le dimanche, sauf dans certains secteurs. Pour changer d'emploi, les employés doivent donner un préavis de 3 mois. La conciliation entre travail et formation continue est beaucoup plus développée et alignée avec les horaires de travail au Québec, observe Christophe Wifferling. Cependant, en Allemagne, il y a le congé éducation de 10 jours, payé tous les 2 ans, qui permet de faire n'importe quelle formation qui nous intéresse, photographie, ébénisterie, cours de langue dans un pays étranger, etc., indique-t-il. Alexis Salmon est originaire de Lille, en France. Il est conseiller chez Desjardins, à cette île. Les heures de travail. En France, la base est de 35 heures et la RRT, réduction du temps de travail, permet de travailler 37h30 en ayant droit à des jours de repos supplémentaires dans l'année. Les horaires de travail sont plus souples au Québec. J'ai une grande souplesse dans la gestion de mon emploi du temps et une grande confiance de ma gestionnaire là-dessus, ce qui est très appréciable, raconte Alexis Salmon, qui a déménagé avec toute sa famille en 2022 à cette île pour vivre dans de grands espaces près de la mer, tout en ayant la proximité des magasins et d'activités culturelles. L'heure du lunch. En France, les heures de repas sont encadrées et strictes. Tu dois partir à midi ou 12h30 et tu reviens à 13h30. C'est fixé comme ça, même si on ne termine pas toujours ce qu'on est en train de faire à midi pile. Ici, au Québec, il y a plus de souplesse. On sait qu'on a 1 heure qui doit servir pour le repas du midi, mais chaque employé fait comme il l'entend. J'ai travaillé pendant 7 ans dans une entreprise qui avait son propre restaurant pour les employés avec des cuisines. L'employeur payait une partie du repas. C'était pratique. Tout le monde se retrouvait et ça donnait une certaine convivialité. Dans les structures plus petites, ça ressemblait à ce qui se fait ici. On apporte notre repas ou on va chercher un sandwich à côté. En France, il y a une culture très forte des cafés, des restaurants, d'endroits où on peut aller manger quelque chose très rapidement ou sur le pouce. Les relations entre collègues. Selon mes impressions, les relations entre collègues sont plus faciles, plus chaleureuses et plus bienveillantes ici. En France, l'état d'esprit Et plus, je suis sur mon lieu de travail, mes collègues sont mes collègues. Je n'ai quasiment pas développé d'amitié avec des collègues, alors qu'ici, ça s'est fait en l'espace de même pas 3 ans. La hiérarchie. En France, l'organisation est verticale, avec une pyramide de hiérarchie claire et parfois trop fournie. Au Québec, Alexis Salmon observe une influence américaine plus horizontale. Les gestionnaires sont là pour nous aider, nous accompagner, mais nous laissent une grande liberté. C'est une différence assez marquée parce qu'en France, on est dans une petite boîte et on ne peut pas en sortir. L'organisation du travail. En France, la structure verticale avec de nombreux paliers de gestionnaires entraîne des problèmes de communication, affirme Alexis Salmon. Ici, l'organisation du travail se fait de façon très instinctive. Elle est tournée vers le besoin du client et comment s'adapter à ce besoin-là. Et on est tous capables de faire preuve de cette souplesse pour mieux y répondre. C'était « La vie de bureau vue par des immigrants », un texte d'Isabelle Dubé, paru le 2 juillet 2025 dans la presse.
Un géant s'éteint. Un texte de Jean-Christophe Laurence, Louise Leduc et Dominique Tardif, paru le 25 juin 2025 dans la presse. Il était l'une des voix majeures de sa génération et un monument culturel. Serge Fiori, âme incontestée d'harmonium, est mort à l'âge de 73 ans, le jour de la fête nationale. Les réactions, nombreuses et émotives, témoignent de son impact sur la chanson québécoise. 1952-2025, il a touché l'âme de la société. Comme un sage monte dans les nuages, Serge Fiori a rejoint le premier ciel. Il est mort mardi 24 juin 2025 à 73 ans, chez lui. Depuis quelques mois, sa santé était chancelante. Il est mort d'une crise cardiaque pendant la nuit, a confié en entrevue Liber Subirana, qui a été flûtiste et saxophoniste dans Harmonium. Liber Subirana se souvient d'un artiste hors du commun. Faire une soupe, ou pour toutes les petites choses de la vie, c'était trop pour lui. Mais vous lui mettiez une guitare entre les mains et un super feu s'allumait. Auteur d'une œuvre aussi courte qu'intemporelle, Serge Fiori n'était pas un musicien parmi tant d'autres. Loin de là. Lancé au milieu des années 1970, les 3 albums d'Harmonium sont devenus des classiques de la chanson québécoise et Fiori, âme incontestée du groupe, s'est imposé comme l'une des voix majeures de sa génération. Son ascension météorique a toutefois été suivie de longs silences, entrecoupés de retours sur disque, aussi furtifs qu'inespérés. Son dernier album solo, paru en 2014, a ainsi connu un succès considérable, obtenant une certification platine moins de 2 mois après sa sortie. Mais au grand désespoir de ses dévoués admirateurs, Fiori n'est jamais remonté sur scène depuis les années Harmonium. Trop émotif, nous avait-il confié en 2006, évoquant sa fragilité et son incapacité à se réapproprier tout ça. Cette rareté n'a fait que magnifier le culte dont il faisait l'objet et avec lequel il avait appris à vivre, avec un mélange de réticence et de satisfaction. De l'intuition musicale. À quoi tenait la fascination pour le personnage? Essentiellement, à la qualité de ses chansons. Les mystères de la création s'expliquent mal. Mais on peut dire que les trois albums enregistrés entre 1974 et 1976 par le groupe Harmonium relèvent du pur miracle musical. Comme si Fiori avait été touché par la grâce pour un instant, le temps de poser sa pierre dans le mur de la chanson et de la psyché québécoise. Cette courte mais fulgurante période d'inspiration a donné naissance à une série de titres devenus classiques comme « Vert »,« Dixie », »,« Histoire sans parole », »,« Pour un instant », »,« L'exil », »,« Comme un sage » ou « Un musicien parmi tant d'autres ». Bien qu'appartenant au son d'une époque, ces morceaux se réécoutent encore avec plaisir, tant ils se distinguent par leur richesse poétique et musicale. Mélodiste hors pair, doté d'une intuition artistique hors norme, Fiori savait conjuguer l'exigence musicale à l'accessibilité commerciale. Entre folk, rock et rock progressif, ses chansons ne tombaient jamais dans la facilité, mais envoûtaient par leurs refrains accrocheurs, se terminant parfois en hymne rassembleur. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Ça fait du bien de se voir. Véritable chant de ralliement dont le Québec des années 1970, en plein élan nationaliste, avait soif. Mais au-delà de ce talent naturel, favorisé par une époque fertile, Fiori a aussi séduit par sa capacité à émouvoir. Difficile de rester insensible devant cette voix douce, inimitable et habitée devant cette mélancolie illuminée, ces textes impressionnistes capables de toucher aux tourments de chacun et aux aspirations d'un peuple, parfois même simultanément. Cette façon de naviguer entre le collectif et l'intime faisait sa force. On avait l'impression qu'il nous parlait au creux de l'âme, comme société et comme individu. Magie et pression. Issu d'une famille italo-québécoise, Serge Fiori apprend la musique très jeune, en chantant dans le Ballroom Orchestra de son père, Georges, mais se tourne dès l'adolescence vers la musique rock. Émule des groupes du British Boom, il enregistre un 45 tours en 1968 au sein des Comtes Harbour, puis fonde le groupe Morpheus au début des années 1970 qui accompagne un temps le chanteur Guy Trépanier. Invité à composer la musique pour une pièce de théâtre de Claude Meunier, qui ne sera finalement pas présentée, Fiori rencontre Michel Normando en 1972, avec qui il fonde le groupe Harmonium, auquel se joindra bientôt le bassiste Louis Valois. Le premier disque de la formation, qui porte le nom du groupe, paraît en 1974 et s'impose dans la veine folk rock avec des chansons comme « Pour un instant » et « Un musicien parmi tant d'autres », rapidement adoptées par une jeunesse québécoise en quête de nouveaux sons, harmonie vocale et guitare acoustique 12 cordes. Avec l'album « Si on avait besoin d'une cinquième saison », Harmonium développe un style plus raffiné et s'approche du courant rock progressif. Les chansons deviennent plus longues, plus complexes, plus opaques. Son lyrisme et sa musicalité lui vaudront de figurer dans la liste des 50 meilleurs albums de rock progressif établi en 2015 par le magazine américain Rolling Stone. Avec Leptade, 1977, Le virage progressif se confirme dans une version plus pesante, avec l'ajout d'un batteur et d'un orchestre symphonique. Basé sur le concept des 7 niveaux de conscience, cet album profond et ambitieux connaît un gros succès et ouvre au groupe les portes du marché américain. Cette avenue se soldera par un échec. Mais pour beaucoup de jeunes granolas québécois, Fiori devient une sorte de gourou, porteur de grandes vérités sur l'être et le cosmos. Un rôle dont le principal intéressé se serait manifestement passé et avec lequel il aura de la difficulté à composer. Cette pression, conjuguée aux exigences grandissantes du succès et de l'industrie musicale, a raison de cet hypersensible qui s'effondre en 1978 à la suite d'un burn-out, non sans avoir enregistré, avec son ami Richard Séguin, un autre album à succès, Fiori Séguin, 200 nuits à l'heure, qui se vend à 200 000 exemplaires et remporte une poignée de Félix. Par projet interposé. Comme beaucoup d'artistes de sa génération, Fiori disparaît dans le grand gouffre post-référendaire du début des années 1980. Il part à Los Angeles étudier la méditation, l'informatique, le piano. Il rompt le silence en 1985, mais son virage pop déroute les fans d'harmonium. D'abord avec la chanson-thème du festival « Juste pour rire », puis avec un album pop synthétique lancé en 1986, « Fiori », qui laisse le public sur sa faim. Le gourou « Peace and Love » a décidément disparu. Fiori multiplie les collaborations dans les années suivantes, mais reste toujours au second plan. On le voit aux côtés de Nanette Workman, 1989, du musicien New Age Peter Keogh, Shiva, où il compose pour le cinéma, la télé ou la radio, puisqu'il faut se lever. En 2014, il lance son deuxième album solo, le premier en 28 ans, dans la foulée d'une biographie où il confesse notamment ses problèmes d'anxiété et de dépendance à l'alcool. Il peut bien dire ce qu'il veut. Devenu une institution, il est désormais un intouchable. La légende d'Harmonium, elle, continue de vivre par projets interposés. Pas toujours heureux, il faut bien le dire. La mini-série sur le groupe, diffusée au début des années 2000, et le remix, discutable, de Leptade, version XL, était au mieux non essentiel. Mais d'autres projets, plus réussis, sauvent la mise, comme les hommages sur disque ou en spectacle, au Franco notamment, le spectacle de cirque, Seul ensemble, du Cirque Éloise, ou l'adaptation symphonique parue en 2020, Harmonium symphonique. Ces réinterprétations permettent à Fiori de rester dans l'actualité. On le voit de plus en plus souvent dans les médias où sa figure bienveillante vient légitimer, sinon promouvoir, les projets qui s'inspirent de son œuvre. Mais ses apparitions entretiennent du même coup le désir contrarié de voir le chanteur sur scène, un rendez-vous qu'il ne cessera de reporter. Serge Fiori nous aura bien fait rêver, et il fait peu de doute que ses chansons lui survivront. On a mis quelqu'un au monde, on devrait encore l'écouter. Vous écoutez? Un géant s'éteint, un texte de Jean-Christophe Laurence, Louise Leduc et Dominique Tardif, paru le 25 juin 2025 dans La Presse. Pluie d'hommage, pour Serge, chanter n'était pas un métier. Serge Fiori est mort le jour de la Saint-Jean. curieuse coïncidence pour ce grand nationaliste qui a, toute sa vie, refusé de chanter en anglais, même quand le marché américain lui ouvrait ses portes. Les réactions, nombreuses et émotives, témoignent de l'impact indiscutable de cet auteur-compositeur-interprète singulier qui n'était jamais remonté sur scène depuis la fin d'Harmonium à la fin des années 1970, mais dont l'aura était demeurée intacte et qui était admirée par plusieurs générations. Pour Serge, chanter n'était pas un métier, résume l'ancien ingénieur de son Michel Lachance, qui a réalisé l'Heptade et le premier album d'Harmonium. C'est quelque chose qu'il fallait qu'il fasse, tout simplement. Comme pour tant d'autres, le décès de l'auteur-compositeur-interprète, le jour de la fête nationale du Québec, a chaviré Liber Subirana, qui a été flûtiste et saxophoniste dans Harmonium. Leur relation aura été en pointillé, l'anxiété de Serge Fiori l'ayant amené à s'isoler beaucoup. Mais ils n'ont cependant jamais perdu contact. Je nous revois chez lui à Longueuil, il y a quelques années, pleurant en regardant les images du documentaire sur Harmonium, raconte-t-il. Quand il se mettait à écrire, on dirait que ça devenait sacré, qu'il se branchait à une autre dimension, lance en entrevue Liber Subirana. Cette connexion particulière avec le septième niveau de conscience aura peut-être été une arme à double tranchant. Certaines personnes contactées ont aussi noté le mal de vivre et la souffrance de ce créateur fragile qui ne s'était jamais vraiment remis de l'aventure intense d'Harmonium. Il s'était séparé de lui à quelque part. Il regardait Serge Fiori comme le gros nom qu'il était. Mais le portrait était incomplet, ajoute Liber Subirana. En un sens, la mort de Serge Fiori est peut-être la délivrance qu'il attendait. Il avait d'ailleurs renoué ces derniers mois avec plusieurs anciens acolytes et les conversations avaient parfois des allures de dossier à boucler. Il était très résigné à tout ça. Il disait « Quand ça va lâcher, ça va lâcher », souligne Michel Lachance. N'empêche, l'annonce de son décès en aura pris plusieurs par surprise. C'est le cas du bassiste d'Harmonium, Louis Valois, qui lui avait parlé il y a 2 jours pour le féliciter d'avoir reçu l'Ordre national du Québec le 18 juin dernier. Et, comme d'habitude, c'était la rigolade. J'étais fier de ça, fier de lui. On avait encore des projets. Pour Louis Valois, la mort de Serge Fiori laisse un grand trou. « Je suis dévasté, » dit-il. « C'est un grand ami que je perds, parce que c'est un ami de vie. Le Québec perd Serge Fiori, mais moi, je perds mon chum Serge. » Le musicien évoque l'Heptade, album majeur du Québec des années 1970. Mais quand je pense à Serge, c'est « Histoire sans parole » qui me vient en tête, ajoute-t-il. C'est ce que je vais écouter ce soir. Richard Séguin, autre complice créatif au sein du groupe Fiori-Séguin en 1978, rappelle de son côté à quel point Serge Fiori avait su toucher une corde dans le public québécois en général. Les jeunes de toutes les époques se sont identifiés à sa voix, peut-être parce qu'ils se retrouvaient dans l'exil intérieur qu'on y entendait, dans le rêve. Parce que Serge, c'était d'abord et avant tout un grand rêveur, dit-il. Un grand rêveur inspiré, précise Michel Normandeau, qui a cofondé Harmonium avec Fiori en 1973. Selon l'auteur des chansons « Vert » et « Pour un instant », Serge Fiori avait cette capacité à créer peu commune, et ce, à toute heure du jour ou de la nuit. Combien de fois on a travaillé à ma table de cuisine, jusqu'à 3 heures du matin, raconte-t-il. À un moment donné, j'allais me coucher, Mais lui, il continuait. Le lendemain, quand je me réveillais, je retrouvais le texte qu'il avait fait. C'était extraordinaire. D'ailleurs, Michel Rivard, qui aimait donner des surnoms, avait baptisé Fiori « Capitaine Sommeil » parce qu'il se réveillait à midi et préférait travailler la nuit. Il se consacrait à la musique jour et nuit, mais surtout la nuit, se rappelle Richard Séguin en riant. Michel Rivard a fait partie, lui, de ce qu'il appelle la classe de 1974. Les membres de Beau Dommage, d'Octobre et d'Harmonium, nous étions des amis. On se fréquentait. On allait voir les shows les uns des autres. On jammait ensemble. On s'assoyait ensemble pour essayer de faire des tunes ensemble. C'était très amical. Michel Rivard devait faire partie d'un trio avec Serge Fiori et Richard Séguin, mais ça a viré en un duo parce que je suis partie en Europe et que j'y suis restée plus longtemps. J'ai manqué le bateau, quoi. Pour Michel Rivard, Serge Fiori est un gars qui n'a jamais arrêté de chercher. Un être extrêmement attachant, un mélodiste incroyable. Tout ça en étant vraiment très brouillon dans la vie au quotidien. Plus récemment, Nicolas Lemieux a lancé l'album Retour de Fiori en 2014, sur étiquette GSI, avec succès d'ailleurs. Leur partenariat s'est prolongé avec les spectacles Harmonium Symphonique 2022 et Riopel Symphonique 2023 sur des musiques de Serge Fiori. C'était d'immenses projets qui venaient tous de sa création à lui. Serge, il avait toujours une trolée d'étoiles autour de la tête. C'était notre plus grande étoile. Malgré son âge, c'était un éternel adolescent. Il avait un cœur énorme. Il aimait les gens. Il aimait rire. Mais quand il travaillait, il était extrêmement sérieux et précis. C'était le summum pour lui d'entendre ses créations exploser en version symphonique. Il capotait. Improbables amitiés. D'abord, un fan fini de Serge Fiori depuis l'adolescence, Paul Arcand s'est lié d'amitié avec lui au fil des ans et de collaborations ponctuelles. Serge Fiori a accepté de faire la musique du documentaire « Les voleurs d'enfance » et, à la grande surprise de Paul Arcand, il avait même accepté de faire le petit jingle de son émission « Puisqu'il faut se lever ». Chaque fois, il était hyper professionnel. Il me demandait ce que je voulais comme musique pour le documentaire. Il avait un côté hyper attachant. Paul Arcand se souvient que, lors de leur collaboration pour « Les voleurs d'enfance », Serge Fiori lui avait dit qu'il était désolé qu'on le perçoive comme un ermite, comme un misanthrope. En fait, c'est qu'il était rongé de façon permanente par l'anxiété qui l'a amené, pendant de longues années, à rester en retrait. Serge Fiori, évoque encore Paul Arcand, était aussi ami avec l'ex-maire de Québec, Régis Labeaume. Je disais que nous étions les deux amis improbables de Serge Fiori, qui avait un tempérament plus artiste que nous. Richard Séguin ne peut s'empêcher de voir un message jusque dans le moment choisi par Fiori pour quitter ce monde. Il nous a joué un tour en partant un 24 juin. Peut-être qu'il voulait nous rappeler le pays en devenir, le pays auquel il a toujours cru. Toujours, toujours, toujours. C'était « Un géant s'éteint », un texte de Jean-Christophe Laurence, Louise Leduc et Dominique Tardif, paru le 25 juin 2025 dans La Presse.
« Servir ou se servir, une chronique d'Alain Vadeboncœur parue le 4 juin 2025 dans l'actualité. Alors que de plus en plus de médecins délaissent le système public de santé, Alain Vadeboncœur fait valoir l'importance de leur obligation professionnelle, qui est de répondre avant tout aux besoins des patients. La pratique de la médecine n'est pas facile, a fortiori en première ligne, mais cela ne justifie pas de laisser tomber les plus grands malades. Sous cet angle, le retrait d'un nombre croissant de médecins de la couverture publique représente une regrettable dérive. La question n'a rien de neuf, elle se manifeste depuis longtemps, avant même l'arrivée de l'assurance maladie au début des années 1970. Elle témoigne tout autant qu'à l'époque de cette tension permanente entre une vision indépendante et libérale de la profession et celle qui considère les médecins comme des acteurs incontournables pour bien remplir la mission populationnelle de soins. En 2025, ce sont ainsi plus de 800 médecins, le double d'il y a tout juste 7 ans, qui ne participent plus à la couverture publique en une période où notre système de santé en difficulté devrait appeler à leur mobilisation plutôt qu'à ce genre de désertion. Il est temps d'agir face à une érosion aussi indéniable que celle des côtes de la Gaspésie. Peu importe que les cliniciens décident ainsi d'abandonner leurs responsabilités au nom d'une liberté de pratique un peu illusoire, pour des raisons personnelles ou bien à la suite de désaccords avec la manière dont l'État gère le réseau, le message envoyé demeure troublant. Si le système ne leur convient pas, les médecins le laisseront de plus en plus tomber. C'est une position difficilement défendable parce que l'obligation déontologique de répondre avant tout aux besoins des patients se transforme alors en une pratique orientée selon les moyens, voire la simple satisfaction professionnelle. Et même si la médecine repose sur une relation de confiance, en quelque sorte privée, entre deux personnes, elle ne constitue jamais une relation comme les autres, surtout quand elle s'exerce dans une société ayant choisi d'y consacrer. Ce n'est pas un détail, une large part de ses ressources. Parce que le contrat social est clair, en échange d'une couverture universelle, d'un financement collectif, d'une reconnaissance professionnelle bien établie et d'un revenu plus qu'appréciable, les médecins sont, devraient être, tenus de répondre avant tout aux besoins des plus malades, dont la gravité de la situation est par ailleurs inversement proportionnelle à leurs moyens. Rappeler ce principe ne signifie pas que les médecins doivent se taire et abandonner leurs récriminations, généralement appropriées, à l'égard de la mauvaise organisation des soins de santé. L'État manque en effet régulièrement à ses devoirs en restreignant l'accès aux soins, en imposant des contraintes mal adaptées ou en instaurant des indicateurs de performance douteux. Cette lourdeur des structures administratives, une logique souvent un peu trop comptable et la froideur de certaines décisions contredisent la réalité clinique vécue sur le terrain, parfois très laborieuse, tandis que les signaux d'alerte sont fréquemment ignorés. Jusqu'à ce que, par exemple, un simple orage menace les soins critiques d'un grand hôpital, celui où je suis né en 1963, moins de 10 ans après sa construction. Ces indéniables difficultés contribuent à miner la volonté des médecins, les empêchent de donner le meilleur d'eux-mêmes, les découragent sûrement et explique même pourquoi plusieurs sont épuisés. Et pas juste les médecins, d'ailleurs. Si je comprends toutes ces difficultés, elles ne représentent tout de même pas une raison suffisante pour abandonner les patients en délaissant la part médicale des devoirs éthiques et moraux. Renforcer le soutien à la pratique, offrir de meilleurs outils et améliorer les conditions de pratique, sûrement. Mais on ne peut pas pour autant rejeter le cœur de la mission du médecin qui est de servir la population. D'autant plus qu'un médecin, en renonçant au cadre public, propose une formule inactuelle où le praticien souverain est maître de ses horaires et de ses honoraires et applique de manière indépendante et selon son bon vouloir ses propres priorités. Il nage alors à contre-courant de tout ce qui facilite l'accès, la continuité des soins et la cohérence de l'ensemble. Bien sûr, il faut rendre la pratique publique plus attractive pour convaincre les médecins d'y rester. Sauf qu'établir plus de barrières face au privé, comme on en retrouve ailleurs au Canada, n'a rien d'excessif, surtout si cela aide à mieux soigner les gens. C'est la moindre des choses pour contrer la lente dérive vers un système à deux vitesses, à laquelle nous assistons comme dans un film au ralenti, où l'accès aux soins dépend de plus en plus des moyens personnels des patients. Au final, c'est la légitimité médicale qui se joue sur un choix simple, mais fondamental, servir d'abord les plus malades ou bien se servir soi-même. C'était « Servir ou se servir », une chronique d'Alain Vadeboncœur, parue le 4 juin 2025 dans l'Actualité.
L'avenir incertain des sites de consommation supervisés. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 25 juin 2025 dans le Franco. L'avenir des sites d'injection supervisés demeure en suspens en Alberta, alors que le gouvernement continue le déploiement de sa nouvelle stratégie en matière de dépendance et de lutte contre la crise des opioïdes. Ce changement de cap, qui privilégie le rétablissement plutôt qu'un modèle axé sur la réduction des méfaits, suscite une inquiétude croissante chez les experts. Depuis l'arrivée au pouvoir du Parti conservateur uni, PCU, en 2019, la province a profondément revu son approche en matière de lutte à la dépendance. Ce repositionnement a notamment mené à la fermeture du site de consommation supervisée, SCS, de Red Deer au printemps 2025, ainsi qu'à celle de plusieurs autres centres au cours des dernières années. À Calgary, le seul site actif de la ville est lui aussi menacé de fermeture. Selon la docteure Ginetta Salvalaggio, professeure à l'Université de l'Alberta et spécialiste en médecine des toxicomanies, la trajectoire du gouvernement soulève de sérieuses préoccupations. Elle estime que plusieurs décisions politiques récentes, telles que la fermeture et le retrait du financement des SCS, s'appuient sur des données qui sont complètement déconnectées de la réalité du terrain. « Ça m'inquiète beaucoup, mais c'est la direction que l'on semble prendre », déplore-t-elle. L'argumentaire avancé par le gouvernement pour justifier la fermeture ou le non-financement des SCS repose en partie sur un rapport controversé publié en 2020 qui suggérait des liens entre les centres, la criminalité et le désordre social. Mais la docteure Salvalaggio remet aujourd'hui en question la validité de ce rapport, qualifiant ses fondements de pseudo-science. La politisation de ces enjeux a été manufacturée, dénonce-t-elle. Elle rappelle que les données probantes vont dans une toute autre direction. Les SCS permettent de réduire les surdoses mortelles et d'offrir un lieu sécuritaire pour les usagers, sous la supervision de professionnels. « Ça sauve beaucoup de vies, ça ne cause pas de tort », insiste-t-elle. Holly Mathias, spécialiste en santé publique, partage cette analyse. Selon elle, aucune donnée probante ne démontre que les centres de consommation entraînent une hausse de la criminalité. C'est tout simplement faux, dit-elle. Elle s'inquiète également des nouvelles mesures mises en place par la province, dont la Compassionate Intervention Act, loi qui autorise désormais le traitement involontaire des adultes et des jeunes souffrant de dépendance. On n'a pas de preuve que ça fonctionne. Le plan du gouvernement est controversé au regard des connaissances en santé publique. C'est important de comprendre la science, souligne-t-elle. Le SCS de Lethbridge, autrefois le plus achalandé en Amérique du Nord, a fermé ses portes en août 2020. Cette décision a fait suite à un audit provincial qui a révélé des irrégularités financières au sein de l'organisme Arches, qui gérait le site. Le rapport faisait état de dépenses injustifiées et d'un manque de transparence. Cependant, plusieurs experts et intervenants de première ligne y ont vu une décision politique, symptomatique du virage de l'Alberta contre la réduction des méfaits. Le financement public a été retiré malgré l'absence d'accusations criminelles. Des mythes qui persistent. Certaines idées reçues au sujet des SCS continuent d'alimenter le débat public. À Calgary, un sondage mené par City News en septembre 2024 révélait que 52 % des citoyens souhaitaient la fermeture du site local. Il y a une perception négative des centres de consommation. Par exemple, j'ai déjà entendu des gens dire que les sites distribuent de la drogue, ce qui est totalement faux, ajoute Holly Mathias. Loin d'atténuer les enjeux, la fermeture des centres pourrait au contraire aggraver la situation, affirme-t-elle. On risque de voir davantage de gens consommer dans des lieux publics. Les communautés pourraient s'inquiéter du désordre ou de la visibilité accrue de ces personnes dans les rues, prévient-elle. Sans compter les impacts sur les consommateurs eux-mêmes, qui sont également préoccupants. La disparition des sites signifie, entre autres, une perte d'accès au matériel de consommation stérile, essentiel pour prévenir la transmission de maladies comme le VIH ou l'hépatite C. On peut imaginer que les effets positifs associés au SCS disparaîtront si on les ferme et qu'il y aura sans doute davantage de drames liés à la consommation, observe Roman Close du réseau canadien d'infotraitement SIDA, CATI. Entre 2017 et juin 2023, rappelle-t-elle, plus de 49 000 surdoses accidentelles ont été traitées dans ces centres, qui ont aussi permis plus de 250 000 référencements vers des services essentiels de santé mentale, d'aide alimentaire ou de logement. Des soins de base, comme le traitement de plaies, ont également été prodigués sur place, évitant d'engorger les urgences. Au total, 360 000 Canadiens ont visité un centre de consommation supervisé à 4,3 millions de reprises. Ce chiffre est énorme. Il démontre clairement le besoin, conclut-elle. Opinion divisée selon les provinces. Un sondage publié en mai et mené pour le compte du CATI montre que 53 % des Canadiens appuient les programmes de réduction des méfaits, tandis que 19 % s'y opposent. La province albertaine est cependant celle qui supporte le moins ces initiatives, avec 47 % d'approbation et 25 % d'opposition. Cet écart est marqué par rapport à d'autres provinces comme le Québec, 62 % contre 11 %. Ce qu'il faut retenir de ces données, c'est que la proportion qui est pour la réduction des méfaits est plus grande que ceux qui s'y opposent, insiste Roman Close. Vous écoutez « L'avenir incertain des sites de consommation supervisés », un texte de Gabriel Audet-Michaud paru le 25 juin 2025 dans le Franco. Changement de paradigme. De son côté, le gouvernement continue de défendre une approche axée sur le rétablissement. À Red Deer, la fermeture du site de consommation supervisée s'inscrit dans cette logique, explique Hunter Barry, ex-attaché de presse du ministère de la Santé et des Dépendances, dirigé par Rick Wilson depuis le remaniement ministériel de la mi-mai. Cette décision a été initiée par le conseil municipal, qui a voté en faveur du démantèlement en début d'année 2024. En réponse, une enveloppe de 3,4 millions de dollars a été annoncée pour renforcer la capacité des centres de désintoxication, élargir l'accès à la médecine des dépendances et mettre en place des équipes d'intervention en cas de surdose, écrit-il dans un échange de courriel avec la rédaction. D'autres mesures de rétablissement ont également été déployées dans la région, notamment l'ouverture d'une unité thérapeutique au centre de détention de Red Deer, le financement public de 20 lits au Red Deer Dream Center, ainsi que la mise sur pied d'une communauté de rétablissement de 75 places. À Calgary, l'avenir du centre Sheldon-Schumir reste, quant à lui, incertain, mais tout laisse croire à une fermeture imminente. En mars, le ministre de l'époque, Dan Williams, exprimait son intention d'implanter un modèle semblable à celui de Red Deer dans la métropole albertaine. « Je ne souhaite pas voir de multiples sites de surdose dans la ville, ni déménager le centre actuel. J'aimerais créer un partenariat avec la ville pour transitionner des sites de consommation vers des centres de rétablissement », déclarait-il. La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, affirme pourtant ne pas avoir reçu de nouvelles du gouvernement provincial depuis plusieurs mois par rapport au SCS de sa ville. « J'ai réitéré à plusieurs reprises mes appels à la province pour qu'elle engage un dialogue avec nous et avec les Calgariens sur l'avenir de ce site, ainsi que sur la manière dont elle entend soutenir de façon responsable à la fois la sécurité des communautés et les personnes aux prises avec une dépendance », indique-t-elle dans une communication écrite à la rédaction. Elle prévient toutefois que la fermeture du site sans plan de transition précis ne ferait qu'augmenter les risques pour les résidents, les entreprises et les personnes vulnérables. Adapter les soins aux réalités diverses. Selon la docteure Salvalaggio, les approches actuelles en matière de traitement de la dépendance ne tiennent pas compte des réalités vécues par les personnes les plus vulnérables. Les femmes, les personnes autochtones, les personnes enceintes, les jeunes ou les aînés ont des besoins particuliers qui nécessitent des plans de soins adaptés, dit-elle. On a tendance à proposer une seule solution pour tous, alors que certains traitements fonctionnent très bien pour certaines personnes et pas pour d'autres, observe-t-elle. Un vocabulaire controversé. Au-delà des décisions politiques, le vocabulaire employé par le gouvernement albertain pour désigner les sites de consommation supervisés illustre le fossé qui le sépare des experts en santé publique. Lorsqu'il évoque ces installations, Dan Williams parle régulièrement de centres de surdose. À ses yeux, ces lieux facilitent la dépendance et infligent du dommage aux personnes qui y ont recours plutôt que de favoriser leur guérison. Ce choix de mots est contesté, affirme Roman Close du CATI. Toutes les données dont on dispose disent le contraire. C'est ça qu'il faut retenir, souligne-t-elle. Les sites de consommation supervisés n'incitent pas à consommer. Ils permettent aux gens de le faire de manière sécuritaire, insiste-t-elle. En réaction au discours gouvernemental axé sur le rétablissement, elle souligne l'importance d'offrir un éventail de services diversifiés, adaptés aux réalités multiples des personnes qui consomment. Se concentrer uniquement sur les centres de rétablissement, affirme-t-elle, risque de laisser pour compte une partie de la population. La consommation est une réalité complexe. Les centres de rétablissement peuvent convenir à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Il faut des solutions intermédiaires, accessibles dès maintenant, pour éviter que ceux qui ne sont pas prêts à entreprendre un processus de rétablissement se retrouvent complètement livrés à eux-mêmes, partage-t-elle. Et si certaines alternatives peuvent contribuer à prévenir des surdoses, comme les approches virtuelles permettant à une personne de consommer sous la surveillance d'un intervenant à distance, elles ne remplacent pas les services offerts en personne. Ce n'est pas aussi efficace, affirme la docteure Ginetta Salvalaggio, qui plaide plutôt pour la réouverture des centres de consommation supervisés. C'est nécessaire, insiste-t-elle. C'était « L'avenir incertain des sites de consommation supervisés », un texte de Gabriel Audet-Michaud paru le 25 juin 2025 dans le Franco.